J'invite à présent M. Denis Roland, le recteur de l'Académie de Caen, rejoindre la tribune. Merci.
Bon, bonjour à toutes et à tous. On va essayer que nos propos réchauffent un petit peu l'atmosphère hivernale de cet amphithéâtre. Bien, alors, monsieur le président de la CPU, mesdames et messieurs les présidents de l'université ici présents, mesdames, messieurs, chers collègues, je voudrais simplement rebondir sur les propos du président de la CPU en disant oui, l'État investit en matière de formation, l'État investit pour qu'on adapte les compétences aussi de nos élèves. Parce que en matière de formation initiale comme en matière de formation continue, de l'école à l'université, on sait que l'évolution des savoirs, l'évolution des compétences et l'évolution aussi des métiers, tout cela va être de plus en plus rapide et que l'adaptation n'est pas garantie. Voilà. Alors le numérique, on le sait tous ici, et je ne reprendrai pas les paroles du président de l'Université de Caen, cher Pierre, mais simplement, oui, c'est une formidable chance. Oui, nos institutions y sont entrées, de la maternelle à l'université et aux grandes écoles. Oui, aussi, finalement, le numérique, c'est aussi un risque que nous soyons toujours en retard par rapport à la réalité en matière d'équipement. C'est surtout un risque en ce qui concerne la compréhension. Qui comprend aujourd'hui les espaces du numérique? Et c'est, me semble-t-il, surtout, et on le dit peut-être insuffisamment, un risque d'inégalité qui vont continuer à se creuser. Je reprendrai ici, ou je décalerai les propos de la Boétie, dans son discours sur la servitude volontaire, qui écrivait à propos de la tyrannie, et que je transposerai volontiers à propos du risque de tyrannie du numérique. Et pourtant, ce tyran, seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni même de s'en défendre. Il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à la servitude. Or, moi, je suis persuadé que les propos de la Boétie en 1576, aujourd'hui, sont plus valables avec le numérique. Il ne s'agit pas de consentir à la servitude ou pas. Je pense que nous sommes sous une mécanique qui est une servitude transparente, invisible, mais bien plus fonctionnelle que celle que pouvait connaître au XVIe siècle la Boétie. Alors, bien sûr, dans la course à l'équipement, la course à la technicité, nos laboratoires ont su à l'université prendre leur part, nos systèmes de recherche, nos formations à l'ESP ou ailleurs ont su prendre leur part. On voit à quel point les horizons des travaux collaboratifs ont été ouverts grâce à Internet de manière absolument exceptionnelle. Ça ne fait pas de citoyenneté pour autant. C'est clair, et on le voit bien, le président de la CPU, cher Jean-Louis, vous avez parlé tout de suite de l'intervention dans le politique, mais on voit bien que les interventions dans la campagne présidentielle nord-américaine ont montré combien, effectivement, Internet était un milieu fragile, instrumentalisable, instrumentalisé. Les attaques hier soir massives contre les télécommunications allemandes, avec de grandes inquiétudes sur le fait que, est-ce qu'il n'y a pas intervention d'une possible volonté étrangère pour déstabiliser? Tout cela nous amène quand même à devoir, et je crois que c'est la nécessité, le caractère impérieux de ce colloque de la CPU ici sur la citoyenneté à l'heure du numérique, à repenser Internet, les réseaux numériques comme un territoire qu'il faut à la fois sécuriser. Et je me souviens quand même, quand j'étais directeur adjoint scientifique à l'INSHS au CNRS, combien on avait du mal à convaincre nos chercheurs, en sciences sociales et humaines en particulier, que sécuriser leurs connexions, sécuriser leurs données, c'était quelque chose d'important, il y a quelques années. Il faut sécuriser Internet, sécuriser ce territoire, et en même temps, il faut le citoyenniser. Et ça n'est pas gagné. Alors désolé de redire des truismes, mais Internet n'a pas de frontières, on le sait. Internet n'a pas de frontières morales, c'est clair, ou très peu. Internet n'a pas de responsabilité morale, ou extrêmement peu. Et sur Internet, les frontières entre légalité et illégalité sont rendues bien plus ténues, bien plus transparentes. Il suffit d'aller sur l'épaule parfois de nos enfants, regarder leur cheminement sur certains sites, notamment de piratage, pour bien voir la façon dont eux-mêmes sont abreuvés de données auxquelles ils n'auraient pas nécessairement accès et qui sont absolument inquiétantes sur la construction du vivre ensemble et sur la construction de la citoyenneté. Il y a des opportunités avec le numérique. C'est absolument incroyable et nous y sommes tous, et heureusement. Moi le premier, la ministre nous a demandé d'être un peu plus présents sur les réseaux sociaux. J'y suis depuis quelques mois. Je dois en être à 6 ou 7 000 tweets, etc. Nous prenons des risques. Nous nous mettons en avant et en même temps, nous devons avoir cette présence sur les réseaux sociaux. Notamment pour comprendre que le savoir de nos jeunes, ceux qui arrivent à l'école, ceux qui arrivent au collège, au lycée et à l'université ou dans les grandes écoles, eh bien, ce savoir, il se construit différemment. Et que la construction concentrique du savoir, notamment par les réseaux du social, des connaissances, des informations, change la donne. Autrefois, on avait des informations communes par le livre, on avait des informations communes par la télévision, etc. Et la mobilisation, la manipulation, elle pouvait être massive, c'est vrai. Mais elle était globale dans la plupart des cas. Aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux permettent des manipulations, des micro-manipulations, mais une multitude dont on ne voit pas nécessairement bien les mécanismes. Et moi, je suis certain que si nous ne prenons pas conscience de cela, Internet sera un facteur de différenciation, des perceptions, et finalement, Internet va être un phénomène qui va contribuer à l'endogamie de petits groupes sociaux ou de plus gros groupes sociaux et une endogamie qui ne sera pas favorable à la construction de la citoyenneté. Et c'est pour ça qu'on doit faire en sorte, à l'école comme ailleurs, qu'on comprenne les fonctionnements d'Internet, qu'on comprenne les algorithmes. Quand on veut effectivement introduire le codage à l'école, l'idée c'est essayer de comprendre un peu comment les choses se fabriquent, comment on vous propose de nouveaux amis sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, etc. De manière à comprendre un petit peu comment se constituent ces groupes à l'ère du numérique. Parce qu'effectivement, la formation de conscience collective aujourd'hui, elle est très difficile à percevoir. Elle est parfois très mouvante. Et donc, nous, formateurs, nous avons l'obligation de réfléchir à comment donner un certain nombre de balises sur la création d'éléments moraux, d'éléments citoyens, sur ce qui est aujourd'hui un abreuvoir incroyable de connaissances, de compétences, de bonnes conduites, mais aussi de mauvaises conduites. Et je voudrais rebondir sur ce mot de conduite. Simplement en réfléchissant ensemble sur l'idée qu'il y a des flux d'informations extraordinaires qui se construisent. Mais c'est un peu comme la voiture autonome. Finalement, on est passé d'un moment où on pouvait conduire son véhicule et décider qu'on allait à droite et à gauche et conduire d'une certaine manière sur des routes déjà tracées, à un moment où finalement, c'est savoir débrancher le pilotage automatique de du véhicule du futur qui nous emmènera quelque part et où on n'a rien à penser, rien à faire. Là, je crois qu'il faut qu'on travaille l'autonomisation des connaissances, des compétences de nos jeunes à l'école comme à l'université, et de se dire que finalement, la formation doit pouvoir enseigner bien plus que le code de la route, c'est d'enseigner comment on se dirige et s'adapter aux nouvelles compétences
aux nouvelles connaissances. L'exemple même, pour rester dans cette idée du cheminement, à quoi ça sert aujourd'hui d'avoir le sens de l'orientation quand le GPS nous guide de toute façon? Voilà une compétence, un savoir qui ne sert plus à grand-chose, qui est remplacé. Et pourtant, il faut qu'à un moment, on puisse aussi débrancher le GPS et se diriger, identifier les informations pertinentes, vérifier les sources. Et notre formation doit être extrêmement vigilante à accompagner les jeunes dans une discrimination individuelle, dans une discrimination collective des savoirs qui leur sont proposés sur Internet. Et c'est vrai que nous y sommes passés, Monsieur le Président de la CPU l'évoquait, et en même temps, combien de TP, combien de TD en sciences humaines et sociales, par exemple, utilisent Internet, utilisent les réseaux sociaux? Combien participent à la création d'un savoir disponible sur Internet? Combien de collègues avons-nous qui se défient encore systématiquement de ce savoir-là? Je crois qu'il faut qu'on accompagne toutes ces évolutions qui peuvent être mortifères, on le sait très bien, et on sait très bien que, par exemple, Internet conduit à des impasses. Je ne parlerai pas ici de la théorie du complot, mais c'est parce que ça n'est que la partie visible de l'iceberg. Mais je crois qu'il faut que vraiment on prenne en main, aussi à l'école comme à l'université, cette réalité virtuelle qui apparaît à nos jeunes comme une multitude d'autoroutes incroyables, et qui l'est de fait, mais qui, à l'inverse, les entraîne souvent sur des chemins vicinaux, hein, comme quand le GPS se perd et qu'on se retrouve sur un chemin de terre, sauf que là, on s'en aperçoit et que nos élèves, nos jeunes, ne s'en aperçoivent pas. Et puis, on voit bien combien, pour l'éducation, il est essentiel qu'on aide nos jeunes à décrypter cela. Les traces, les empreintes qu'ils laissent sur Internet, dès le collège, ils les retrouveront peut-être au moment de l'emploi. Qui, ici, dans cette salle, n'a pas regardé au moment de recruter un collègue son profil Facebook et de se dire qu'effectivement, à un moment, ce qu'il montrait sur Facebook ne semblait peut-être pas correspondre à ce qu'on attendait de lui, et de réfléchir un tout petit peu à ce que l'on pouvait faire en matière de recrutement. Il y a la question de la starisation aussi du web. Je pense qu'il ne faut pas s'en défier, il faut la construire, la co-construire. Simplement, il est évident que le rôle du professeur, le rôle de l'éducateur d'une manière ou d'une autre, eh bien, il a perdu du lustre. Nous ne sommes plus aux hussards noirs de la République depuis longtemps, mais là, nous sommes encore en train de perdre des parts de marché dans la capacité à convaincre que les porteurs de savoir, les porteurs de compétences ont une autorité aussi grande ou concurrentielle avec ceux des stars du web. Je ne vais pas être trop long, mais je voudrais quand même dire que sur ces questions de la citoyenneté, l'école, l'université, nous devons éduquer de plus précisément aussi sur des notions qui ne sont pas simples, la différenciation entre sphère publique et sphère privée. Il faut qu'on outille nos jeunes pour essayer de comprendre que ces frontières qui aujourd'hui ont largement été abolies par les réseaux sociaux ont quand même du sens. Or, aujourd'hui, ça n'est pas gagné. Il faut qu'on éduque les jeunes à une sociabilité digitale. Alors, bien sûr qu'on fait du travail, bien sûr que nous, Éducation nationale, nous avons les CLEMI, les centres d'information aux médias, qui ont pris un certain temps, c'est vrai, à se transformer parfois. Comment passer de la télévision aux réseaux sociaux? Mais ça y est, avec les collectivités, on travaille, avec certains, ici en particulier, certaines associations, on a réussi à dynamiser la compréhension des réseaux sociaux, d'Internet, avec les CMMA en particulier. Et en même temps, on sait que nous n'en sommes pas toujours à la véritable construction d'un usage responsable d'Internet. Et je crois que c'est un défi commun, c'est-à-dire que nos connaissances sont importantes, bien sûr, et puis quand on est responsable d'éducation dans une académie, quand on sort les évaluations PISA, quand sortent les évaluations TIMSS, on réagit, on se dit qu'effectivement, le travail que nous faisons sert à quelque chose et servira dans le moyen ou dans le long terme. Le problème, c'est qu'Internet, les réseaux sociaux, luttent sans arrêt contre nous pour des résultats à court terme, pour de la communication à court terme, et qu'il faut que nous soyons des facteurs d'inertie en matière de travail sur les compétences transversales, travail sur la collaboration entre les pairs, travail sur la créativité individuelle et collective, et travail, et j'en reviens peut-être aux évaluations qui viennent de sortir, par exemple, sur la logique, les problèmes complexes, la capacité de jugement individuel, la capacité de prise des décisions dans des relations qui sont parfois de plus en plus horizontales que verticales. Alors, on a un rôle indispensable dans l'e-éducation des jeunes, dans l'e-éducation des formateurs, et je pense aux SP, où là, il faut vraiment qu'on prenne la mesure de l'évolution de nos jeunes, sinon nous passerons à côté de l'essentiel de la formation. Se dire que nous avons une responsabilité aussi à nourrir les contenus, à ne pas nous défier d'Internet, des réseaux sociaux. Il faut y intervenir, sinon d'autres y interviendront à nos places. Il faut que nous soyons producteurs de MOOC, il faut que nous soyons producteurs de contenus sur Internet, bien plus d'ailleurs que d'être attentifs à nos références sur Google Scholar ou sur d'autres choses de ce type-là. Je voudrais dire que pour moi, il y a quand même un risque essentiel, c'est que le risque de décrochage de nos formateurs à l'école comme à l'université soit une des causes d'un décrochage citoyen de nos jeunes. Il faut qu'on assure, comme l'entreprise, la responsabilité sociale de l'entreprise. Eh bien, nous avons aujourd'hui une responsabilité sociale d'éducateur d'accompagner les évolutions techniques, les évolutions des réseaux sociaux, les évolutions d'Internet. Et on le voit bien, par exemple, pour l'école, et je bats la coulpe de l'école ici clairement, on a mis en place il y a pas mal d'années des CESC, Conseil d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Eh bien, très longtemps, on a développé la santé et on avait largement oublié la citoyenneté. Alors, il faut qu'on mobilise les apprentissages de nos élèves, de nos jeunes. Il faut que le numérique nous serve par une pédagogie différenciée à avoir une pédagogie plus inclusive à l'école comme à l'université. On a des opportunités incroyables pour avoir une évaluation plus diversifiée, une évaluation plus constructive, plus positive. Ne ratons pas effectivement la rapidité d'évolution de cette construction numérique. Je voudrais simplement terminer en disant que il ne faut pas se leurrer. Si nous n'agissons pas, nous serons dépassés et notre vieille conception, notamment à la française, de la citoyenneté risque d'être ébranlée de plus en plus fortement. Bien sûr que le numérique peut nous aider à impliquer les familles, à passer dans une véritable coéducation, pour nous, éducation nationale. Et en même temps, le numérique, c'est peut-être d'abord un risque de décrochage. On a cette communication magnifique avec les parents via les ENT, via des programmes, peu importe comment ils s'appellent. Qui s'en sert ? Qui se nourrit de cette communication ? Qui est encore plus en décrochage qu'autrefois ? On a depuis longtemps parlé de fracture numérique. Moi, je crains quand même aujourd'hui que cette fracture n'aggrave les inégalités, n'aggrave les inégalités scolaires, n'aggrave aussi les perceptions qu'on peut avoir de la citoyenneté. Alors, oui, Internet ouvre, les réseaux sociaux ouvrent le champ des possibles pour construire une citoyenneté efficace, efficiente, proche des gens. Je crois qu'il faut nous y immerger avec volontarisme. Il faut que vous y travailliez. Et je ne peux que remercier la CPU d'avoir organisé ce colloque ici à Caen, simplement pour dire que le numérique a un risque de construire des cellules infracitoyennes dont plus personne ne maîtrise la réalité. C'est bien que vous vous empariez ici de cette thématique et merci beaucoup.